C'est évidemment la course engagée par les chercheurs du monde entier contre le Covid-19 qui m'inspire. Le sujet, quelles sont les étapes avant de trouver un vaccin, combien de temps ça dure, quels sont les enjeux financiers, bref, les vaccins, comment ça marche? Toutes ces questions, je vais vous les poser à vous. Olivier Nérol, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur du CNRS et exercez à l'Institut de pharmacologie et biologie structurale, c'est l'IPBS, et travaillez donc en lien avec l'Université de Toulouse, Paul Sabatier. Votre domaine de compétence, je crois, c'est la recherche sur la tuberculose. D'où cette question, il existe un vaccin pourtant contre la tuberculose, non?
Alors oui, il existe un vaccin que tout le monde connaît bien qui s'appelle le BCG.
Et oui.
Et ce BCG, il était obligatoire en France jusqu'au milieu des années 2000 à peu près. Il est encore obligatoire dans nombreux pays et il a été très très largement utilisé. Alors il est plus obligatoire bon, pour des raisons de bénéfices-risques qui ont été mesurées par les experts. Mais c'est un vaccin qui protège très très bien les formes infantiles contre les formes infantiles de tuberculose. Et on s'est rendu compte avec le temps qu'il protégeait de façon trop inégale, en tout cas, contre les formes pulmonaires de la maladie chez les adultes, donc qui est la forme transmissible de la maladie, d'où la nécessité de développer un nouveau vaccin meilleur que le BCG contre la tuberculose.
D'accord. Alors ça nous amène tout de suite à notre entretien de ce matin. Les vaccins, comment ça marche? Et d'abord, qui sont les acteurs et où s'effectuent les recherches, Olivier Nérol?
Les recherches s'effectuent dans tous les laboratoires publics et privés, donc c'est-à-dire les laboratoires comme l'IPBS ou d'autres laboratoires du CNRS ou d'autres laboratoires publics d'autres pays. Et puis évidemment les industriels qui sont également impliqués dans le développement de vaccins. Donc c'est vraiment un travail de partenariat très étroit entre les États, les laboratoires publics et les acteurs privés du domaine pharmaceutique.
Et j'entends que ce ne sont pas forcément des médecins. Par les temps qui courent, beaucoup d'épidémiologistes se font connaître, des virologues, des vaccinologues. C'est aussi des chercheurs comme vous l'êtes.
Tout à fait. Alors les médecins, évidemment, sont très très fortement impliqués dans la recherche vaccinale, alors plutôt sur des aspects plus en aval, c'est-à-dire quand on commence à tester des candidats, ce qu'on appelle des candidats vaccins, qui ont été développés dans un premier temps dans des laboratoires, testés sur des animaux de laboratoire comme des souris, et qu'on veut ensuite évidemment les tester chez l'homme. Là, les médecins, évidemment, jouent un rôle absolument primordial.
Alors, vous avez parlé de travail de partenariat. Je crois qu'il y aurait en ce moment en France 26 labos mobilisés sur la recherche contre le Covid. Il y en a beaucoup d'autres à travers le monde. Ça veut dire que le premier labo qui trouve a gagné d'une certaine façon?
Oui, a gagné. Enfin, c'est pas une course à l'échalote, mais c'est effectivement le premier laboratoire qui trouve un vaccin en général, donc dépose un brevet et puis est propriétaire de ce vaccin. Alors évidemment, après, avant qu'on puisse déclarer qu'il a gagné, ça prend un temps relativement important parce qu'il faut prouver que ce vaccin est effectivement efficace sur le long terme dans différentes populations, etc. Donc c'est pas quelque chose qui se décide à un moment donné. C'est pour ça que la recherche vaccinale est en perpétuelle évolution et qu'on peut rarement l'arrêter. La recherche de vaccins contre la tuberculose, par exemple, il y a actuellement des candidats vaccins qui sont en essai, ce qu'on appelle de phase 3, c'est-à-dire vraiment très très avancés dans le développement. Mais il faut absolument continuer la recherche fondamentale et la recherche préclinique au cas où ces vaccins, qui sont sans doute très très prometteurs, mais s'avéreraient pas si prometteurs que ça. Donc c'est vraiment un continuum qui doit se construire dans le temps.
Un continuum. Alors justement, on va prendre les étapes, si vous voulez bien, Olivier Nérol. Je rappelle à ceux qui nous rejoindraient que vous êtes chercheur et vous travaillez notamment sur le vaccin pour la tuberculose. On s'intéresse ce matin au vaccin et comment ça marche. Comment au départ un labo décide de s'engager dans la recherche d'un vaccin? Par exemple, vous, pourquoi vous ne vous êtes pas mis sur les rangs pour le Covid-19?
Parce qu'il faut une certaine expertise et puis il faut des moyens aussi techniques et d'infrastructures. C'est-à-dire que quand on est virologiste ou médecin en virologie, on a évidemment toute l'expertise nécessaire pour travailler au développement d'un vaccin comme un vaccin contre le Covid-19 ou d'autres virus. Quand on est bactériologiste comme moi, par exemple, on a plus vocation à travailler sur des vaccins contre des infections bactériennes comme l'est la tuberculose, par exemple.
Mais sinon, c'est comme ça que ça se passe. Les labos s'auto-saisissent et décident de s'engager dans la course ou non, si, à condition qu'ils ont le domaine de compétences et d'expertise, c'est ça?
Oui, c'est souvent un historique, c'est-à-dire on décide pas un matin en se levant. Alors bon, il y a évidemment des cas particuliers. Le cas du Covid-19 est un cas évidemment très particulier puisque c'est extrêmement soudain. Donc il faut évidemment orienter des recherches immédiatement sur le développement de médicaments et de vaccins sur cette maladie-là. Mais c'est des travaux de longue haleine qui se décident pas comme ça du jour au lendemain. C'est des historiques, des laboratoires publics ou privés qui ont certaines expertises, qui ont certaines infrastructures, certaines technologies, certains moyens, etc., de travailler sur telle ou telle maladie.
Est-ce qu'il y a une part de secret également? Vous avez, je reprends vos mots, hein, tout à l'heure parlé de partenariat, on imagine une forme d'émulation, mais peut-être également de compétition aussi, non?
Oui, il y a une forme de compétition entre les laboratoires publics eux-mêmes, entre les laboratoires publics et privés, entre les laboratoires privés eux-mêmes, mais c'est une compétition qui est... en quelque sorte saine et source d'émulation parce que ça donne de l'énergie. Après, c'est pas une compétition pour écraser le concurrent, c'est vraiment pour essayer de trouver un remède à un mal, quoi.
Et compétition, évidemment, pour trouver le remède à un mal, compétition, car évidemment, derrière, il y a des enjeux financiers. Quels sont-ils?
Bah, il y a des enjeux financiers. Alors dans la recherche sur les vaccins, les enjeux financiers sont pas colossaux. Hein. C'est pas comme dans d'autres domaines de recherche médicale, parce que les vaccins contre les maladies infectieuses en général sont plutôt à destination de tous les pays, mais en particulier des pays en développement, dans lesquels les industriels savent bien qu'ils vont pas faire des marges bénéficiaires énormes. Donc oui, il y a des enjeux financiers, mais qui sont à mon avis pas la priorité pour ce qui concerne les vaccins contre les maladies infectieuses.
Et qui finance les recherches?
Dans le cas des industriels, c'est eux-mêmes. Et puis dans le cas de... Enfin, c'est eux-mêmes en partenariat, donc ils peuvent recevoir aussi de l'argent public. Et puis, ce sont les États, les unions d'États, comme la Commission européenne, qui financent énormément la recherche sur les vaccins contre plusieurs maladies, dont la tuberculose. L'Union européenne finance des gros consortiums, très très gros consortiums de dizaines et de dizaines de laboratoires publics et privés sur cette recherche-là et sur d'autres recherches. Donc c'est de l'argent public et de l'argent privé.
Alors on reprend les étapes. On est dans un laboratoire public ou privé. Quels sont vos matériaux de recherche? Comment vous procédez?
On procède par essais et erreurs. Et évidemment, dans le cas des vaccins, en gardant toujours en tête les principes fondamentaux de la création des vaccins qui en fait ont été édictés par Louis Pasteur, hein, c'est-à-dire, en tout cas pour les premières générations de vaccins, c'est-à-dire l'atténuation du germe pathogène, l'atténuation ou l'inactivation du germe pathogène qui a donné lieu à toute une série de vaccins de première génération, dont le BCG par exemple. Bon, maintenant on a des moyens, disons, un peu plus sophistiqués de créer des vaccins, avec ce qu'on appelle des sous-unités, donc c'est des petits morceaux du germe, des protéines ou des acides nucléiques ou des sucres, mais le principe reste le même. Donc le matériel qu'on a, c'est du matériel biologique de l'agent pathogène qu'on peut utiliser tout ou partie, et puis ensuite qu'on teste, alors en général sur des modèles cellulaires et des modèles animaux, pour voir, un peu comme a fait Pasteur avec ses poules, hein, pour voir si quand on inocule ce morceau de germe ou ce germe inactivé, eh bien on protège contre la maladie.
Donc vous isolez l'agent pathogène et vous cherchez ce qui va permettre de l'atténuer ou le tuer, hein, c'est ça?
Voilà, on peut chercher quelque chose qui va l'inactiver ou l'atténuer suffisamment pour qu'il soit sécurisé et qu'on puisse l'inoculer aux personnes de façon sécurisée, ou bien on va chercher des morceaux de cet agent pathogène qui sont suffisamment, ce qu'on appelle immunogènes, stimulants pour le système immunitaire, pour déclencher une réponse immunitaire qui va protéger la personne quand elle sera exposée à l'agent pathogène lui-même.
Et pourquoi c'est si long avant de trouver un vaccin? Hier, Édouard Philippe, dans sa déclaration, disait qu'il y avait de grandes chances qu'on ne trouve rien avant 2021, voire 2022, 18 mois minimum, je crois.
Oui, mais alors 2021-2022, c'est déjà pas long du tout. Hein. Si on y arrive, c'est un exploit. En général, il faut des années, voire des dizaines d'années. Je vous rappelle qu'on n'a toujours pas de vaccin contre le sida, par exemple. Hein. Des candidats qui sont en cours de test, mais on n'a pas de vaccin homologué. Alors ça prend du temps parce que, pour plusieurs raisons. D'une part, les maladies sont souvent complexes, alors pas toutes. On arrive à bien développer des vaccins contre la grippe chaque année par la connaissance des souches de grippe qui circulent à la saison précédente dans le monde. C'est une immunité qui repose sur des anticorps, donc c'est une immunité relativement simple à induire. Il y a des maladies beaucoup plus compliquées, le sida en est un exemple, la tuberculose en est un autre exemple, où là l'immunité met en jeu un tas d'acteurs cellulaires et moléculaires qui sont extrêmement difficiles à comprendre. Ça, c'est une première raison du temps. Et puis la deuxième, c'est qu'ensuite il faut passer par toute une série d'essais cliniques de différentes phases, 1, 2, 3, 4, avec toute une série de d'homologations, d'autorisations, de vérifications de la sécurité. Parce qu'un vaccin est amené à vocation à être délivré à la population mondiale, si on va jusqu'au bout. Hein. Donc évidemment, on ne peut pas comme ça inoculer n'importe quoi au monde entier.
Il y a donc
ça prend
des règles...
années, voire des dizaines d'années. Donc effectivement, si on a un vaccin contre le Covid en 2021 ou 2022, c'est un exploit. Hein. Il faut le savoir.
Il y a donc des règles, vous le dites, hein, très strictes, on l'imagine bien, qui encadrent la recherche, des règles qui sont les mêmes en France qu'aux États-Unis, en Chine ?
Oui, tout à fait. C'est des règles éthiques. Oui, bien sûr, ce sont les mêmes règles. Enfin, les grands principes généraux sont les mêmes. Hein. Il faut assurer la sécurité des personnes. Voilà, c'est la première règle.
Et alors, une fois qu'on a trouvé, une fois qu'un labo a trouvé, vous nous l'avez dit, la première étape qui doit s'enclencher, c'est déposer un brevet.
Oui, c'est une étape importante si on veut continuer le développement d'un vaccin ou d'un médicament en général, c'est déposer un brevet pour protéger l'invention. Hein, c'est la vocation d'un brevet, un brevet, c'est un titre de propriété intellectuelle, hein, c'est ça. Donc on protège l'invention et on en protège surtout l'exploitation par la suite. Donc
ça veut dire que le vaccin appartient à celui qui l'a trouvé et cela pendant combien de temps ?
Alors les temps varient selon les pays, en général c'est jusqu'à une vingtaine d'années. Après le vaccin tombe ce qu'on appelle dans le domaine public, ou la chose brevetée. Disons.
Donc si demain c'est la France par exemple, admettons, on peut toujours l'espérer, qui trouve le vaccin contre le Covid, le labo X qui le trouvera sera le seul à pouvoir le commercialiser pendant 20 ans, c'est ça ?
À le commercialiser, pas forcément. C'est-à-dire, ça dépend qui trouve le vaccin. Alors, on dépose un brevet. Mettons qu'un laboratoire public découvre un vaccin, un laboratoire du CNRS ou ailleurs. C'est pas ce laboratoire-là qui va pouvoir ensuite développer de façon industrielle ce vaccin pour le mettre sur le marché. Donc, il va faire ce qu'on appelle une licence d'exploitation de son brevet, c'est-à-dire qu'il va vendre toute ou partie de son brevet à un industriel ou des industriels pour ensuite passer à la phase de développement industriel à grande échelle.
Dernière question.
Mais le titre de propriété dont je parlais appartient à ce laboratoire, et donc si c'est un laboratoire public français, il appartient en quelque sorte à la France, oui.
Et ça sera lui qui fixe le prix ?
Alors après, c'est des négociations dont les règles m'échappent un peu, mais qui sont en général assez âpres. Oui.
Eh bien, un grand merci pour toutes ces explications. Grâce à vous, c'est beaucoup plus clair. Je rappelle que vous êtes chercheur du CNRS à l'IPBS à Toulouse. Toulouse, d'ailleurs, où devrait se tenir, je crois, hein, vous allez me le confirmer, en avril 2021, le 6e forum mondial sur les vaccins, et ceci sous le patronage du chef de l'État. Vous pouvez me dire juste rapidement un mot sur cet événement à venir.
Alors, si les conditions le permettent, évidemment, c'est encore difficile à dire aujourd'hui, mais le 6e forum mondial sur les vaccins contre la tuberculose qui a lieu tous les deux ans devrait se passer en avril 2021 à Toulouse. Alors, c'est très prestigieux et très important. Les éditions précédentes ont eu lieu à Shanghai et à New Delhi. Et on a effectivement reçu le haut patronage du président de la République et le patronage de la ministre de la Santé, qui était Mme Buzyn à l'époque. Bon, ça a changé depuis, mais pour l'organisation de ce forum. Voilà.
Eh bien, nous aurons probablement l'occasion d'en reparler. Un grand merci à vous, Olivier Nérol.